Richard Lesclide, Contes bleus et roses pour l'amusement des petits et des grands-enfants. Les aventures du coq Chantecler et de la poule pondeuse. Un jour, le coq Chantecler s'ennuyait. « Je ne sais vraiment pas ce que nous faisons dans ce poulailler, » dit-il à sa femme qui picorait à quelques pas de lui. « Est-ce que cela vous amuse de chanter et de pondre toute la journée ?»«
Je n'y ai jamais songé, » dit la poule pondeuse. « Que pourrions-nous faire de mieux ?»«
Mille choses, qu'il serait trop long de vous expliquer. Voyez les gens comme il faut. Ils courent de fête en fête et de divertissement en divertissement. Ce sont les eaux, le spectacle, le jeu, la bonne chère, les visites et d'autres plaisirs dont vous ne vous doutez pas.
En sont-ils plus heureux, mon ami ?
Sans aucun doute, il y a quelque chose d'humiliant à vivre parqués ainsi que nous le faisons. Et pourquoi supportons-nous l'esclavage ? Pour quelques poignées de maïs que l'on nous jette et que nous trouverions à profusion dans les champs ? Cette vie est réellement indigne d'un gentilhomme.
Croyez-vous, Chantecler ?
Certainement, je mourrais ici de langueur et de lassitude. Jamais il n'a fait si ennuyeux qu'aujourd'hui. Qui nous arrête ? Est-ce cette balustrade que nous franchirons facilement avec nos ailes ? Est-ce l'incertitude de l'avenir ? Mais on trouve partout des graines, des vermisseaux. Et si nous nous ennuyons de notre liberté, nous pourrons toujours nous engager dans une autre ferme.
Ainsi, vous voulez partir ?
Oui, ma chère, c'est une affaire décidée. Je suppose que vous viendrez avec moi.
Vous savez bien que je vous suivrai jusqu'au bout du monde.
C'est précisément là que je compte aller, dit le coq en secouant l'aile, et comme le chemin est un peu long, nous ferons bien de nous mettre promptement en marche.
Encore faut-il, dit Pondeuse, que je fasse mes adieux à ma mère et à mes sœurs.
« Je vous arrête là, » dit son mari. « Si vous dites nos projets à ce tas de péronnelles, elles en feront des cocoricos interminables. Je pars à l'instant. Voyez si vous voulez m'accompagner. »«
Eh bien, » dit-elle, « en route. »
Ils s'élancèrent tous les deux, franchirent la clôture de la basse-cour et se trouvèrent dans d'immenses prairies qu'ils traversèrent allègrement. Le beau temps, l'air frais, les senteurs embaumées de l'herbe qu'ils foulaient, tout concourait à charmer le début de leur voyage. Chantecler marchait à belles enjambées, comme un oiseau qui veut aller loin. Sa femme sautillait autour de lui et chassait aux insectes malgré ses remontrances. Aussi, de temps en temps, était-il obligé de s'arrêter pour l'attendre.
« Que le monde est grand !» s'écria Pondeuse, parvenue au sommet d'une colline.
« Et comme on s'en fait peu l'idée !» quand on vit au fond d'un poulailler ?»«
Ce n'est rien que cela, » dit Chantecler, « et nous pourrions aller 20 fois au-delà sans voir la fin de la terre. Mais ce n'est pas le tout que de voyager. Il faut encore se nourrir agréablement. J'aperçois près d'ici un verger magnifique. Si nous allions manger des noix avant que l'écureuil ne les ait dévorées, elles doivent être mûres à présent. »
« C'est une excellente idée, » répondit la poule, qui était un peu gourmande. « Croquer des noix par un beau soleil est un des plus grands plaisirs que je sache. » Ils firent donc halte dans le verger et abattirent 10 fois plus de noix qu'il ne leur en fallait. Le coq les ouvrait très adroitement ou les cassait contre des pierres. Ils en mangèrent tous leurs sous et avec si peu de retenue que cela les rendit lourds et paresseux. Ils s'étendirent sur l'herbe, regardant l'horizon avec beaucoup d'insouciance.
« Je suis incapable de faire un pas de plus, » dit enfin Pondeuse. « Si vous voulez continuer notre voyage, trouvez-moi une voiture où je puisse me faire traîner jusqu'aux pays inconnus que vous voulez visiter. »
« Vous êtes sans façon, » dit Chantecler, « quoiqu'au fond, je ne blâme pas votre idée. » Il est certain que nous serions bien mieux dans un carrosse que sur nos jambes. Mais les carrosses sont rares dans le pays, et si nous en trouvions dans ce bois, ce serait vraiment un miracle.
« Cela vous regarde, » répondit la poule. « Tenez pour certain que je ne bouge plus. »
Chantecler eut quelque velléité de la corriger à bon coup de bec,
mais il chassa ses idées malsaines car il aimait sa femme qui ne manquait pas de bonnes qualités. Après d'assez longues réflexions, il alla prendre dans un champ voisin un potiron magnifique qu'il fendit par la moitié. Il le vida, le nettoya, et pour le rendre plus solide, il le plaqua de coquilles de noix fort bien ajustées. Cette machine fut montée sur deux petits bâtons, enchâssés dans de gros navets plats qui figuraient heureusement des roues. Quand cet équipage fut terminé, Chanteclerc le regarda avec complaisance pendant que Pondeuse sautait de joie. « Vous avez fait merveille !» dit-elle en s'asseyant dans la voiture. « On est là comme dans son lit. Je ne saurais trop vous donner d'éloges. Maintenant, vous n'avez qu'à vous atteler au brancard et tout ira le mieux du monde. » « Vous plaisantez, » dit Chanteclerc. « Vous voulez rire sans doute, car sans cela, vous me paieriez cette impertinence. Suis-je fait pour traîner les voitures ? Tout ce que je peux faire pour vous, c'est de m'asseoir sur le devant et de vous servir de cocher. M'y voilà fort commodément placé. Et maintenant, le carrosse marchera s'il plaît à Dieu. « Vous n'attendez pas, dit Pondeuse, que j'aille le pousser par derrière. » « C'est pourtant ce que vous pourriez faire de mieux, dit le coq en s'échauffant. Il allait ajouter quelques bonnes réprimandes quand ils virent sortir d'un fourré une canne et un canard qui avaient l'air de gens d'importance. Le canard portait une longue barbe rouge et se dandinait de telle façon qu'on eût dit qu'il était ivre. En voyant cette voiture au bord du chemin, il se prit à piétiner et s'écria violemment « Voleur, vagabond, que faites-vous sur mes terres? Je vous punirai de votre insolence. Je ne sais qui me tient de vous rosser à plat. » Chanteclerc, qui n'était rien moins que patient, répondit à cette harangue par un terrible coup de griffe. Le canard le saisit à son tour par le cou et lui arracha 4 à 5 plumes dorées. Le coq, irrité, leva son éperon et fit à son adversaire une blessure qui partait de l'épaule et descendait jusqu'au ventre. Le canard tomba sur le flanc en criant « Je suis mort !» La canne, qui était d'un naturel belliqueux, n'avait pas considéré tranquillement cette bataille. Elle s'était glissée derrière la voiture et, se jetant sur Pondeuse, elle la plumait sans miséricorde, malgré ses cris pitoyables. Mais, en s'apercevant de la défaite du canard, elle se hâta de prendre la fuite et disparut dans le bois. Chanteclerc n'était pas méchant, et quand il vit son ennemi à terre, il lui tendit la patte et l'aida à se relever. « Toutefois, lui dit-il, vous ne trouverez pas mauvais que j'use des droits de la victoire. Vous allez me faire le plaisir de traîner notre carrosse comme un joli cheval. Nous ne sommes pas lourds. Vous me paraissez très fort et il vous semblera faire une promenade. » « Je vous avouerai, répondit le canard, que je suis novice dans ce métier. Je crains de vous jeter dans un trou et d'endommager votre équipage. » « N'en prenez pas de soucis. Je vais cueillir une forte baguette et je vous en frapperai quand vous irez de travers. Vous verrez que nous marcherons à merveille. » En effet, ils s'installèrent dans le potiron et le canard, qu'on avait attelé avec de longues herbes, leur fit faire un bout de chemin. Quand le coq vit sa bonne volonté, il le battit avec modération et se proposa même de lui rendre plus tard la liberté. La nuit tombait et il fallait songer à chercher un abri. Mais les voyageurs se trouvaient dans un pays inconnu et Chanteclerc, qui n'était pas fort en géographie, ne savait de quel côté se diriger. La poule dormait déjà, et à chaque cahot de la voiture, elle risquait de tomber. En outre, les navets, qui servaient de roues, étaient usés par les pierres des chemins et demandaient à être remplacés. Ils avisèrent alors un gros chat, assis sur son derrière au pied d'un arbre, et qui fumait sa pipe avec un calme tout philosophique. Chanteclerc sauta à terre pour lui faire civilité. Le chat se mit à 4 pattes pour le recevoir et s'empressa de lui donner des renseignements sur la contrée. Il s'offrit même à conduire les voyageurs jusqu'à un ermitage voisin où ils trouveraient sûrement un bon souper et un bon lit. cette proposition fut joyeusement accueillie. On fit asseoir le chat à côté de la poule, qui lui fit quelques mines agaçantes, et le canard prit sur la droite, d'après les indications du nouveau venu. Arrivés devant une espèce de hutte, les messieurs descendirent et offrirent la patte à Pondeuse qui les suivit. Ils frappèrent à une petite porte. L'ermite lui-même vint leur ouvrir. Chantecler et sa femme furent alors saisis d'une grande frayeur. Ils se serrèrent l'un contre l'autre en se dissimulant derrière le chat. Cet ermite redoutable avait un museau pointu, des yeux de feu et une longue queue fourrée. Son poil rouge et ses dents aiguës firent frissonner les oiseaux qui se souvinrent de l'avoir vu plusieurs fois dévaster le poulailler où ils avaient été élevés. « Où nous avez-vous conduit ? » dit le coq au chat d'un ton de reproche. « Chez le révérend Corbès, » répondit celui-ci. « N'avez-vous pas entendu parler de ce renard célèbre qui, après avoir mené une vie de polichinelle, s'est retiré du monde pour vivre dans la retraite et dans la sainteté ? C'est lui-même. » « En effet, » dit Corbès en cachant ses regards étincelants derrière une paire de lunettes bleues, « c'est moi-même, mes enfants. Entrez et soyez les bienvenus. » « Il est trop tard pour reculer, » dit Chantecler à sa femme. « Entrons et faisons bonne contenance. Surveillons le chat, qui nous trahit peut-être, et méfions-nous de cet hôte. » Le canard fut moins courageux. Dès qu'il eut aperçu le renard, il recula pas à pas sans mot dire et, se débarrassant de la voiture par une violente secousse, il prit la fuite à toutes jambes et disparut dans un taillis. Cependant, l'ermite, aidé du chat, prépara un couvert frugal et servit aux voyageurs des fruits et des racines. Il affirma que le régime végétal avait fort amélioré sa santé et cette assertion parut être agréable à Chantecler. Mais, en se levant de table, il aperçut dans un coin un amas d'os de poulet qui lui donna fort à penser. « Hélas !» lui dit Corbès avec un soupir, « que regardez-vous là ? J'emporte ces débris avec moi comme un souvenir de mes anciens crimes. Cela m'excite à la pénitence et à la mortification. » En disant ces mots, il accompagna ses hôtes à la niche qu'il leur avait préparée. Le coq en barricada la porte sous prétexte que Pondeuse était somnambule et, au bout d'un moment, tout le monde dormit ou feignit de dormir. Mais Chantecler se tenait sur ses gardes, ne fermait qu'un œil à la fois et ouvrait l'oreille au moindre bruit. Vers le milieu de la nuit, il entendit parler et s'approcha de la porte pour écouter. Maître Corbès avait éveillé le chat et, sous prétexte de pourvoir à la sûreté générale, il lui proposait de faire une ronde autour de l'habitation. Le chat y consentit. « Allez devant !» dit le renard. « Je prends mon sabre et je vous suis. » À peine le chat fut-il sorti qu'il vint se poster devant la porte de ses hôtes en la regardant avec convoitise. Des éclairs partaient de ses yeux. « Encore un petit péché !» se disait-il en se léchant les lèvres. « Encore un petit péché ! Ce sera le dernier !» Chantecler se hâta de secouer Pondeuse. « Nous courons le plus grand danger, lui dit-il. Nous sommes perdus si nous ne partons à l'instant. Il s'agit de sauter par la fenêtre. Et oup !» Pondeuse, épouvantée, à moitié endormie, tomba sur la tête et se fit quelques contusions. Le coq la releva et, sans dire une parole, ils s'éloignèrent à travers champs. À quelque distance, ils rencontrèrent le chat en sentinelle qui parut fort surpris de les voir. Chantecler lui conta l'aventure et Minet, qui était une excellente bête, les félicita d'avoir échappé à ce traquenard. « Il faut fuir, dit le coq, mais ce qui me fâche, c'est d'abandonner la belle voiture où nous voyagions si commodément. N'est-ce que cela ? Dit le chat. Je vais aller la chercher. Je ne crains pas Maître Corbès, moi. J'ai dents et griffes pour me défendre. Quant à vous, vous m'attendrez en sûreté perché sur cet arbre. » Il partit aussitôt et revint à l'ermitage où l'attendait un spectacle inattendu. Le renard, emporté par sa gourmandise, avait voulu enfoncer la porte de la niche où ses hôtes étaient renfermés. En se précipitant vers elle, la tête baissée, il avait rencontré un grand clou qui lui avait fait au front une blessure effroyable. Aveuglé par le sang, il avait plongé sa tête dans un seau d'eau pour se rafraîchir, mais un étourdissement l'avait pris et il s'était misérablement noyé à domicile. Le chat le retira à peu près étouffé et eut-il à peine le temps de lui rendre les derniers devoirs, Corbez expira dans ses bras. « Triste exemple, dit Minet, des punitions que le ciel réserve à ceux qui blessent les lois de l'hospitalité. » En pérorant ainsi, il s'attela à la charrette et l'amena grand train dans le bois où l'attendaient ses amis. Le jour commençait à paraître. Il les trouva sur pied, dispos, rassurés et prêts à partir. Il leur raconta la mort de l'ermite et tira de ce sujet de fort belles conséquences, car il était orateur. « Vous parlez à ravir, dit Chanteclerc, et l'on ne se lasserait pas de vous entendre. Mais voilà le soleil qui se lève, et nous avons une longue route à faire. Montez, pondeuse, asseyez-vous dans le fond de la voiture. Nous partirons quand vous voudrez, mon cher Minet, dit-il en sautant à son tour sur le siège, armé d'une gaule de grosseur raisonnable. Le chat se mit sur son séant et parut ne pas comprendre cette invitation. « Est-ce que vous vous imaginez, dit-il, que je vais traîner votre citrouille ?»« Je n'en fais pas un doute, dit Chanteclerc. Vous le devez d'abord par galanterie pour ma femme et ensuite par l'excellente raison que vous avez quatre pattes et que nous n'en avons que deux. »« Je me moque de vos raisons, dit le chat. Je pourrais consentir à conduire madame si vous vous atteliez avec moi au carrosse. Mais pour rien au monde, je ne voiturerai un grand fainéant comme vous. » « Vous êtes peu poli, dit le coq, et vous ne dérogeriez pas en traînant mon équipage. Je suis de première noblesse, et je compte parmi mes aïeux des poulets sacrés et des coqs de combat célèbres en Angleterre. » « Vous me faites rire, dit le chat. Vos ancêtres n'étaient après tout que des volailles. Sachez que je suis le propre petit-fils de Mur et de Miesmi, sur lequel on a fait des poèmes, et que j'ai des frères élevés au château de Bourriole sur la Garonne, où on les empâte matin et soir avec une grande déférence. Cela va se gâter, dit Chanteclerc. Comprenez bien, mon cher, que je serais heureux d'obtenir par la douceur ce que je puis exiger de vous. Par exemple, mon petit monsieur, je voudrais bien savoir comment. Vous allez l'apprendre, dit le coq. Ces mots furent accompagnés d'une série de coups de gaule qui tombèrent drus comme grêle sur les épaules du chat. Au premier coup, celui-ci bondit de colère et secoua tellement le carrosse que Pondeuse en tomba à la renverse. Au troisième soubresaut, les liens cédèrent. Minet se retourna, libre, hérissé, furieux, et d'un épouvantable coup de griffe, il éborgna Chanteclerc qu'il envoya choir à 10 pas. D'un saut, il fut sur lui, et le saisit si violemment à la gorge que le coq se sentit étranglé. Il était perdu quand Pondeuse vint se jeter à travers les combattants. Elle eut des larmes, des cris et des sanglots. Elle se montra si pathétique que le chat, qui avait beaucoup de générosité naturelle, retira lentement la patte qui terrassait son ennemi. Mais Chanteclerc ne bougeait pas et restait étendu sur la place. Cependant, les soins de sa femme parvinrent à le ranimer. Il se releva péniblement. Au premier pas qu'il fit, clopin-clopant, il retomba sur le flanc, car il était contusionné des pieds à la tête. On fut obligé de le hisser sur le carrosse. Pondeuse se plaça auprès de lui pour le soutenir, et le chat, après avoir grondé dans sa moustache, se décida à traîner cet hôpital ambulant. En voyant le résultat de la bataille, Chanteclerc ouvrit un œil mourant. « Vous voyez bien, dit-il à Minet, que vous avez fini par vous atteler à la voiture. Ne valait-il pas mieux commencer par là ?»
Le chat, à ces mots, eut quelque envie de verser dans le fossé le carrosse et son chargement. Mais la réflexion le calma, et nos touristes continuèrent leur voyage à petite journée. Sur la ville de Pondeuse, Minet prit un chemin qui conduisait à leur ferme natale, car on craignait que Chantecler ne fût pour toujours perclus. Ici devraient se placer quelques aventures que le chat a plus tard racontées. Mais sans suspecter sa véracité, nous n'en dirons que peu de choses. La caravane aurait rencontré une épingle et une aiguille, ivres comme des soupes et sortant du cabaret. Ces intrus, accueillis dans la voiture, s'y seraient si mal comportés qu'on les aurait abandonnés à l'auberge la plus voisine. Minet affirme également que Chantecler mangeait quelquefois à son déjeuner des œufs à la coque. Cet acte d'ignoble anthropophagie est fait pour révolter le lecteur honnête, outre qu'il est peu vraisemblable. Enfin, quelques personnes ont prétendu que l'ermite Corbès, sauvé contre toute prévision et voulant faire un mauvais parti à ses anciens hôtes, avait eu la tête cassée par une meule de moulin qui s'était jointe aux voyageurs. Il est bon sans doute d'écouter les contes avec une grande confiance, mais la crédulité a des bornes. Il est probable que le chat, dans sa vieillesse, sous prétexte d'enjoliver son récit par des circonstances piquantes, y aura ajouté ses embellissements. Aussi n'en parlons-nous que pour mémoire. Les trois amis, après ces incidents à bon droit suspectés, arrivèrent dans le grand verger où ils avaient fait autrefois une première halte. Les arbres portaient quelques noix encore. Comme elles étaient rares, il fut décidé que toutes celles qu'ils trouveraient seraient rassemblées et partagées également entre eux. Chantecler était sur pied et, tout réjoui de sa convalescence, il gaulait les noix avec un grand courage. Le chat se glissait jusqu'au bout des branches les plus éloignées. Pondeuse ramassait les fruits qu'on lui jetait. Dans le nombre, elle trouva une noix si belle et si fraîche qu'elle ne put résister à sa gourmandise. Elle l'avala d'un seul coup. Mais le fruit était si gros qu'il s'arrêta dans son gosier et ne voulut pas descendre. Saisie de frayeur, la poule se prit à gémir, et ses compagnons s'aperçurent de sa détresse. « Courez vite chercher de l'eau à la source voisine, » dit le chat à Chantecler, « sans quoi nous allons la voir étouffée. » Le coq partit comme un trait, pendant que Minet, faisant patte de velours, cherchait à faire glisser la noix dans le cou de Pondeuse. Mais il n'arrivait à rien. La poule criait à rendre l'âme, et Chantecler ne revenait pas. C'est qu'il avait rencontré près du ruisseau le canard et la canne avec lesquels il était en délicatesse. Il les avait suppliés de lui donner de l'eau dans un vase quelconque. « Très volontiers, lui dit le canard, mais vous voyez comme cette eau est sale et blanchâtre, elle ferait à votre femme plus de mal que de bien. Allez prier les blanchisseuses qui la troublent de suspendre leur travail et vous pourrez ensuite puiser de l'eau claire à discrétion. » Le coq courut vers les laveuses et les pria de ne plus savonner. Mais elles lui dirent « La nouvelle mariée attend ses jupons blancs pour aller à l'église. Allez lui demander si elle veut nous accorder un quart d'heure de répit. » Le coq courut chez la nouvelle mariée qui l'écouta avec complaisance. « Allez demander à mon fiancé, dit-elle, s'il consent à retarder notre mariage et les blanchisseuses pourront alors se reposer. » Le coq courut chez le fiancé et parvint à l'intéresser à ses affaires de ménage. Il voulut bien attendre un peu. La nouvelle mariée permit aux laveuses de s'arrêter, et l'eau redevenant limpide, le coq en remplit plusieurs coquilles de noix qu'il emporta avec lui. Pondeuse était étouffée depuis longtemps. Chantecler se laissa tomber auprès d'elle, prétendant qu'il n'avait plus qu'à mourir. Le chat lui représenta qu'il y avait une infinité d'autres poules au monde, mais le coq secoua la tête et resta plongé dans sa douleur.
Minet ordonna des obsèques splendides, car il avait remarqué que les pompes funèbres, habilement ménagées, sont une sorte de consolation pour les survivants. Il fit lui-même les invitations, et un nombre considérable d'animaux suivit le convoi de pondeuses. On affirme y avoir vu jusqu'à des renards, mais c'est une allégation que je ne saurais prendre sur ma responsabilité. Au bout de quelques jours, Chantecler tomba dans un dépérissement visible. Il s'obstinait à ne pas quitter un petit mausolée de bruyère qu'il avait élevé à sa femme au pied du mur de la basse-cour où il l'avait épousée. Le chat lui était fidèle compagnie et cherchait à le distraire et à l'entraîner au cabaret. Mais la mort planait sur le coq et Minet lui ferma les yeux. Il enterra auprès de sa chère poule et, comme un avertissement aux voyageurs trop hardis, il écrivit sur la muraille, au-dessus du cénotaphe, ces vers, imités depuis par un de nos poètes. « Coq qui vivait dans ces demeures, êtes-vous bien? Tenez-vous-y, et n'allez pas chercher midi à 14 heures. »